Chapitre 2. Le drame moral dont les deux étourdis venaient à leur insu de provoquer l'explosion chez Bassigny tenait dans ce cœur de 55 ans à des choses bien profondes, quoique bien lointaines. Pour le poser tout entier, un mot suffira. Fernand Bassigny, quand il avait l'âge de Maxime de Portille, avait été l'amant de Madame Janson, la mère de Nicole de Moniaux, le premier amant, comme Maxime allait être celui de Nicole. Et quand le jeune viveur avait dit avec son assurance gaie, en toisant du regard le mystérieux témoin de ses indiscrétions, « Ce n'est toujours ni le mari ni le père », il ne soupçonnait pas la secrète ironie de ses dernières paroles, ni que sa future maîtresse était vraiment la fille de ce demi-vieillard qui semblait chauffer, frileusement et tristement, une sciatique imminente à ce premier feu d'automne dans ce petit salon de club presque désert. Il était trop naturel qu'un élégant de 1896 ignorât cette paternité. Qui donc se rappelait cette liaison de Bassigny avec celle qui, après s'être appelée 20 ans durant la belle Madame Janson, n'était plus que cette bonne maman Janson, ou plus brutalement Jansonaille? Il en est des femmes célèbres par leur galanterie, multipliées jusqu'à en être innombrables, comme de ces écrivains qui ont écrit 40 volumes et au nom desquels 3 ou 4 œuvres seulement demeurent attachées. Quand on citait les amants de Madame Janson, pêle-mêle, on nommait la Croix-Firmin, Casal, Machaut, Sangiobles, Taraval, Celdron, le prince d'Ardrea, tout récemment le petit Roland de Brève, et personne ne s'avisait de mentionner qu'au moment de la naissance de la jolie Nicole, Fernand Bassigny, ce disparu, était l'hôte assidu de la maison. Le premier amant d'une femme du monde, pour peu qu'il ait de la délicatesse, et Bassigny appartenait à une génération évanouie qui se piquait en amour de chevalerie et de silence, passe d'ordinaire inaperçu. Il est celui dont les bonnes âmes ont dit « Le pauvre garçon perd son temps à l'époque où il était le plus heureux et que ces mêmes bonnes âmes plaignent plus tard d'avoir échoué là où tant d'autres ont réussi ». Il est à plaindre, en effet, pour d'autres motifs, s'il a vraiment aimé cette femme dont il fut la première faiblesse, et s'il la voit descendre les degrés du sinistre escalier, devenir de romanesque qu'elle était avec lui, légère, puis galante, enfin dépravée, quelquefois infâme. Il reste à cet homme, quand le spectacle de cette dégradation lui fait trop de mal, la ressource de se poser le point d'interrogation qui domine les amours mondaines. Est-on jamais la première faute d'une femme? Cette sage et trop juste philosophie n'est pas à la merci de toutes les sensibilités. Bassigny s'en était trouvé incapable. Il avait pu quitter Claire, c'était le prénom de Madame Janson, parce qu'elle l'avait trompé trop outrageusement. Il avait pu s'éloigner de leur fille avec l'idée que c'était là son devoir, puisqu'un autre avait sur cet enfant les droits d'un père. Et cet autre était un honnête homme qui, n'ayant aucun doute sur la légitimité de cette naissance, aimerait de son mieux la petite. Bassigny avait pu enfin, par un retour irrésistible aux traditions morales de sa race, redresser sa vie, se marier, reconstituer son âge mûr dans des données régulières et familiales, hors des passions, dont ses 10 ans de Paris et surtout la tristesse de cette criminelle paternité dans l'adultère l'avaient dégoûté. Jamais l'amertume n'avait cessé d'inonder son cœur, chaque fois qu'à sa rencontre avec quelque ami, resté parisien, un écho lui était arrivé de la scandaleuse existence menée par son ancienne maîtresse. Il avait eu pourtant l'énergie de fuir, autant qu'il avait pu, ces douloureuses conversations. À peine avait-il revu Madame Janson pour lui présenter sa femme et pour lui faire une visite officielle à chacun de ses séjours à Paris. Puis ses visites s'étaient espacées comme ses séjours. Enfin, elles avaient cessé complètement. Il avait eu, pour laisser tomber cette relation, comme tant d'autres, un trop légitime et trop cruel prétexte. Sa femme avait commencé de souffrir de la poitrine et il avait dû passer la moitié de l'année sur la Riviera. Ses enfants, ceux qui portaient son nom, avaient grandi. Il avait fini par s'absorber tout entier en eux, au point d'appréhender également de revoir et Madame Janson et Nicole. Toutes deux, à mesure que le temps marchait, ne lui représentaient plus que des mélancolies et que des remords. Il avait su cependant que la jeune fille s'était mariée et, quoi qu'il en eût, cette circonstance lui avait été l'occasion d'un grand trouble suivi d'une grande joie. Il ne connaissait pas les Moniaux, dans la famille desquels Nicole entrait ainsi, mais on lui avait donné sur lui des renseignements grâce auxquels il avait conclu qu'elle ne vivrait pas trop dans l'atmosphère maternelle. Il s'était toujours complu, depuis lors, à espérer que la loi de l'hérédité n'exercerait pas sur cette jeune destinée sa terrible action. Cette implacable loi venait de peser tellement sur lui-même, dans l'ordre physique, puisqu'il avait vu, en si peu de mois, la phtise y emporter sa femme et ses deux enfants. Était-elle aussi férocement inévitable dans l'ordre moral? Cette question, que Bassini se l'était posée de fois, depuis qu'un triple deuil lui avait enlevé toutes ses raisons de vivre, toutes, excepté une. Car il gardait obscurément, secrètement, sans se l'avouer, au fond de lui, une fixe espérance qu'il se rapprocherait quelque jour de cette fille. Il ne la connaissait que de vue pour s'être trop souvent arrêté aux Champs-Élysées à la regarder passer dans son coupé comme un amoureux pauvre. Il avait eu, jusqu'ici, une invincible timidité à se faire seulement présenter. D'autant plus scrupuleux qu'il pensait davantage à elle, il évitait de même prononcer son nom, tant il craignait un soupçon rétrospectif sur cette paternité cachée. Il croyait Nicole heureuse pour la voir dans ses rencontres de hasard, aperçue qui emmenait avec elle un tout petit garçon de 3 ans déjà, son petit-fils à lui, oui, heureuse, bien partie dans la vie, à l'abri des chutes vulgaires. Et voilà que la plus soudaine, la plus brutale révélation lui apprenait qu'elle avait déjà compromis son bon renom dans des coquetteries poussées très loin, si loin qu'elle était sur le point d'avoir un amant. Et quel amant ! Oui, quel amant ! Se répétait-il en descendant l'escalier du cercle. Il en avait monté les marches dans son habituel état de courbature intime, d'épuisement moral, d'indifférence à tout et à tous, et ce lui était une étrange surprise de constater qu'il gardait au cœur une place vive par où souffrir à nouveau. La limite de sa puissance de douleur n'avait-elle donc pas été atteinte le soir où la pierre du caveau de famille s'était fermée pour la 3e fois en moins d'une année sur un cercueil? Mais qui est-elle donc, se disait-il encore, pour avoir pu s'éprendre d'un tel personnage, s'intéresser à un drôle de cette ignominie de ton et d'âme? Sa mère, du moins, n'a pas commencé par cette boue. Comment un garçon de cette espèce, un de ces hideux jeunes gens d'aujourd'hui, si dépravés, si avilis avant même d'avoir vécu, ne donne-t-il pas la nausée à une jeune femme de 25 ans? Par quelle aberration en fait-elle son premier rêve? Et moi, qui me l'imaginais heureusement mariée, mise dans un milieu où elle ne connaîtrait jamais les tentations qui ont perdu l'autre, sa terrible mère? J'étais fou. Comme si elle n'a pas dû, chez cette mère elle-même, voir, dès sa prime jeunesse, défiler toute la suite des amants qui se sont succédés là et comprendre ce que ces intimités signifiaient. Avant même d'aller à son premier bal, j'en suis sûr, elle n'était pas plus naïve qu'une fille d'actrice ou de cocotte, tutoyée par l'entreteneur de la maman. Elle a dû être prise, des années durant, comme complice dans les petits mensonges quotidiens que l'on faisait au mari, mépriser celui qu'elle croyait son père pour cette facilité de duperie et s'habituer à la ruse comme à la danse et au cheval. Si elle prend un portille pour premier amant et à 25 ans, c'est qu'elle est la vraie femme de cette éducation et de ce monde. Et pourquoi pas ? Sa mère n'a pas trop souffert de vivre la vie de galanterie qu'elle a vécue depuis moi. Celle-ci n'en souffrira pas davantage. Le mari n'en saura pas plus que n'en sait, encore aujourd'hui, ce Benet de Janson. Il n'y aura de malheureux dans cette affaire que quelques nigauds comme moi qui commettra la faute d'aimer Nicole comme j'ai aimé sa mère. Ces malheurs-là ne méritent pas qu'on les plaigne. On ne cherche pas le bonheur sur certains chemins. Tout cela est affreux cependant. Ah, c'est affreux! Mais je n'y peux rien. Si j'étais parti hier, comme je le voulais d'abord, pour la Tourette, je n'aurais même pas soupçonné cette malpropre histoire. Et que c'eût été plus sage d'être là-bas, près de mes pauvres morts. Je partirai demain matin. Comme il se formulait cette résolution, Bassigny était déjà sur le trottoir de la place de la Madeleine. La vie nocturne du Paris joyeux grouillait devant lui, sous les flamboiements mêlés du gaz et de l'électricité, à cette heure qui précède la sortie des théâtres. Les cafés et les restaurants incendiaient de leur rayonnement le rez-de-chaussée des maisons. Presque tous les magasins demeuraient ouverts et la foule des piétons, mêlée à celle des voitures, emplissait l'entrée du boulevard de cette activité, enivrante ou sinistre, suivant la disposition de celui qui la regarde, car elle n'a d'autre but que le plaisir immédiat, rapide, insatiable et, le plus souvent, brutal. Rien n'avait changé de ce coin depuis l'époque où Bassigny était lui-même un des acteurs dans cette comédie de la fausse gaieté parisienne. Dans l'éclair d'une de ces hallucinations comparatives, si fréquentes lorsque nous nous sentons vieillir, il s'aperçut en pensée de 27 ans plus jeune, sortant du cercle comme à présent, vers cette même heure, par des soirs pareils à celui-ci, allant rejoindre Madame Janson dans sa loge, aux Italiens d'alors. Et dans le champ de la vision cérébrale, simultanément, un autre Bassigny lui apparut, bien loin de Paris, cheminant sur une route d'Aveyron, vers un cimetière où l'attendaient ceux qu'il venait d'appeler tout bas ses pauvres morts. La vision se fit plus précise encore, et voici que le fantôme d'un de ces êtres morts se leva pour lui d'une pierre qu'il connaissait trop. Il les évoquait d'ordinaire, tous les trois ensemble, ses chers disparus. À cette seconde, une seule figure ressuscitait devant les yeux de son esprit, et c'était celle de sa fille, en allée pour toujours, de cette Hélène dont il avait si chaudement protégé l'enfance et la jeunesse, que sa femme et lui avaient faite si pieuse, gardée si pure, le lys de grâce et de candeur qui avait embaumé leur maison. Ce fut le mirage d'un instant bien court. Il suffit pour que les idées de Bassigny fussent émues du coup jusque dans leurs plus secrètes racines et jetées dans un sens nouveau. Hélène et Nicole étaient pourtant sœurs, songeait-il. Hélène et Nicole. Il redit ces noms à voix haute l'un après l'autre et il s'enchantait et se narrait à la fois tout le cœur avec la musique de ses syllabes. Nicole et Hélène. Quelle pitié qu'il ne m'ait pas été permis de faire pour celle-ci ce que j'ai fait pour celle-là. Il y a dans ce monde vraiment trop de grandes iniquités. Celle qui aurait été dans la vie un si précieux exemple, une source de bien et de bonheur pour tous, est morte, l'autre vie, l'autre vouée aux pires aventures et à répandre la contagion du vice. Mais aussi, que de choses avait eu la morte que la vivante n'a jamais eue. Injustice dans la mort, injustice dans la vie. Et ces deux injustices ne se compensent pas. Hélène et Nicole. Elles étaient sœurs, elles se ressemblaient de visage, et si elles s'étaient connues, elles n'auraient rien su de leur parenté, elles ne se seraient pas aimées, à moins que cette ressemblance ne fût encore plus profonde que je ne l'ai jamais devinée, malgré les différences d'éducation. C'est possible, cependant. Qui sait si Nicole n'a pas en elle un peu de cette adorable nature de sa sœur? Et si le jeune Forban que je viens d'entendre parler d'elle, avec cette infamie de brutalité, ne s'adresse pas, pour l'égarer, à ce qu'il y a de meilleur en elle? Qui sait s'il ne lui joue pas une comédie sentimentale dont elle est la dupe? Il a raconté qu'il lui fait la cour depuis des mois. Donc elle se défend, elle se débat. Il a raconté qu'il espérait la réduire cette semaine. Cette semaine? Dire que demain, après-demain, dans 3 jours, dans 4, il y aura peut-être 1 heure avant laquelle toutes ces imprudences n'auront été que des enfantillages et après laquelle l'honnête femme sera pour toujours tuée en elle. C'est pourtant vrai que la chose irréparable est là, dans cet abandon de la dernière pudeur qui fait qu'une femme ne peut jamais plus s'estimer vraiment. Pauvre Nicole! Elle n'en est qu'à la coquetterie, à cette légèreté où il y a quelquefois tant d'innocence. Qui sait si, précisément, l'absurde choix qu'elle a fait de se portir ne prouve pas cette innocence même, une naïveté de jeune femme mal gardée, mal conseillée, qui se laisse prendre à des dehors de jolis garçons, à des chevaux bien attelés, au prestige de l'homme à la mode? Hélas, si les choses sont de la sorte, c'est pire encore. et elle n'a personne, personne pour lui dire la vérité, pour lui crier qu'elle traverse la plus solennelle minute de son existence. Personne. Celui qu'elle croit son père est un si pauvre homme, si incapable de lire dans une âme de femme. Et sa mère. Sa mère, elle sait pourtant la vie, elle. Je pensais tout à l'heure, elle n'a pas souffert. Qui sait encore ? Il n'est pas possible qu'à travers tous ces égarements, elle n'ait pas eu des heures de remords, qu'elle n'ait pas senti à certaines minutes la honte de ne plus être une honnête femme. Elle a dû goûter quelquefois l'amertume de la galanterie, la lie de la coupe, connaître ce que l'adultère cache en son arrière-fond de tristesses et de dégoûts. Et elle n'essaie pas d'épargner cet avenir à sa fille. Mais sait-elle seulement quel danger Nicole est en train de courir ? La voit-elle, la suit-elle d'assez près, cette fille, pour même soupçonner la réalité de sa situation ? Si quelqu'un allait lui apprendre, pourtant, cette réalité, lui dire, là, les yeux dans les yeux, « Votre fille va prendre un amant. Cet amant, c'est Monsieur de Portille. Il est encore temps de l'empêcher de se perdre, et vous seul, vous le pouvez, entendez-vous, vous seul. » Quand il se fut prononcé à lui-même ces paroles, dans le silence de sa conscience, Bassini s'arrêta subitement. Une évidence s'imposait à lui. Comme quelqu'un qui se réveille d'un sommeil de somnambule, il retrouva tout d'un coup le sens de l'endroit où sa marche automatique l'avait entraîné et qu'il ne voyait plus depuis l'instant où il avait commencé de raisonner. Il était à l'angle de l'avenue de l'Opéra et il lui fallait obliquer à droite. Il passa brusquement sa main sur ses yeux et la voix intérieure s'éleva de nouveau en lui, impérative maintenant, comme celle d'un irrésistible témoin qui lui dictait un ordre. « Mais c'est à toi, malheureux, d'aller parler à cette mère, à toi d'aller sauver ton enfant comme tu aurais sauvé l'autre. » Et, associant dans une même émotion sacrée les images de ces deux jeunes filles, de celle qui était morte en l'appelant mon père et de celle à qui il ne dirait jamais ma fille, cet homme, qui ne pleurait plus depuis des mois, sentit de grosses et chaudes larmes germer dans ses yeux et une volonté, une attente, presque une espérance, lui renaître au cœur. Sur ce coin de trottoir si peu propice, semble-t-il, à de pareilles résolutions, il venait de faire avec lui-même le vœu de tout entreprendre pour empêcher cette première et irréparable faute de son enfant.